Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio-Canada. France Inter.
RFI. Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette déclinaison de la librairie francophone qui vous accompagne tout l'été avec un grand voyage culturel francophone. Aujourd'hui, nous sommes à Port-au-Prince, en Haïti. Voici le sommaire de cette édition. Ici, depuis Port-au-Prince, nous allons vous faire vivre la culture haïtienne avec nos invités qui ont accepté cette émission entièrement en déambulation dans la ville. Le club francophone réunira ainsi le grand musicien congolais Ray Lema, star mondiale du jazz, qui a participé cette année au Pop Jazz Festival de Port-au-Prince. Il sera avec l'écrivain Lionel Trouillot pour un échange autour de leurs engagements et du multiculturalisme. Nous parlerons de la défense des écrivains haïtiens avec une association qui milite pour la culture à travers le monde. L'auteur Kate Limars porte cette initiative sur l'île. Elle sera avec nous tout à l'heure. Nous ferons également un détour par le Canada, qui a des liens très forts avec les Haïtiens, pour une entrevue avec l'illusionniste Luc Langevin, un moment qui va vous surprendre. Et nous partons tout de suite dans le centre de Port-au-Prince, autour du Palais National, avec le jeune écrivain Néhémy Pierre Dahomey.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Ça. Difficile la tâche de traverser, comme vous le constatez.
Oui, on a du mal là.
Mais on va finir par s'imposer, parce que des fois il faut s'imposer pour traverser. Allons-y.
Ouais, enfin, on va s'imposer tranquillement, attention. Voilà. Et on s'impose, mais ça passe.
Donc voilà, on s'impose et on finit par passer. Là, on se retrouve devant le kiosque Oxyde Gentil.
Voilà, beaucoup d'ambiance. On a réussi à traverser. On commence donc avec notre série Un auteur, une ville ici à Port-au-Prince avec Néhémy Pierre Dahomey, jeune auteur haïtien qui avait beaucoup fait parler de lui lors de la sortie de son premier roman Rapatrié, paru aux éditions du Seuil. Bonjour Néhémy.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Ça va très bien Emmanuel. Eh bien, je suis content de faire ce petit tour de Port-au-Prince avec vous.
Oui, on est dans le centre de Port-au-Prince.
On est vraiment dans le centre, sur la grande place du Champ de Mars. Et je vais vous faire découvrir les lieux que j'ai toujours aimés, et d'autres que j'ai moins aimés, et des lieux toujours symboliques qui expliquent et qui disent quelque chose, soit de la ville, soit de la façon dont nous construisons cette ville.
Alors, au-dessus, on voit les bidonvilles qui entourent toute la ville. Il y a ces habitations de fortune, en fait, qui sont un peu... La difficulté finalement sociale de Port-au-Prince, même plus que ça, parce que depuis le tremblement de terre, beaucoup se sont retrouvés sans abri et se sont réfugiés aux abords de la ville.
C'est-à-dire là, c'est la rue Capois. Si vous traversez la rue Capois, vous passez devant le Triomphe, vous finissez par arriver sur la route de la Lune. Ensuite, vous verrez le quartier de Sans-Fil.
On va aller voir le Sans-Fil. On peut y aller?
Oui, allons-y. Hein, allons-y. On ne va pas s'aventurer très loin parce que c'est très grand comme quartier. Bon, comme vous voyez, il y a des gens qui vendent des produits artisanaux.
Il y a un petit marché là, juste devant nous, effectivement.
Au fait, je ne dirais pas marché, parce que l'idée de marché est associée en haïtien à un endroit où on vend principalement de la nourriture, etc. Là, il y a des produits artisanaux, on est sur le Champ de Mars, les gens fabriquent leurs produits artisanaux et en vendent, etc. Si vous voulez repartir avec un petit souvenir, Emmanuel Kérad, c'est là qu'il faut vous fournir, juste en face du Triomphe, ici, vous voyez. Vous pouvez vous fournir en aigle marron, vous pouvez vous fournir...
Il y a des sandales en cuir, beaucoup de sandales en cuir
beaucoup
ici.
Beaucoup de sandales en cuir. Et quand on va faire quelques pas plus loin, on va tomber dans le quartier de Sans-Fil. Vous voyez?
Ah oui, effectivement, oui.
Vous continuez, vous voyez au flanc de la montagne. Alors, ce qui est saisissant, comme vous l'avez souligné, c'est le contraste. Le contraste qu'il y a juste là, avec le Champ de Mars qui paraît un espace plus dégagé. Et juste là, plus loin, ce n'est pas dégagé du tout, comme vous le voyez.
Effectivement, oui, c'est fermé, c'est enclavé. Néhémy Pierre Dahomey, quand vous écrivez, quand vous avez publié votre premier roman, est-ce que cette ville de Port-au-Prince vous a inspiré? Est-ce que vous vous en êtes imprégné pour pouvoir créer cette œuvre littéraire?
Ben, vous pouvez aussi me le dire, parce que vous m'avez reçu autour de ce livre.
Oui, on en avait parlé.
On en avait parlé. Certes, c'est une ville qui reste quand même très présente dans le roman, parce qu'à un certain moment, l'un des personnages, pour aller vite, a dû prendre un taxi-moto. Et vous voyez, les taxi-motos sont juste là, comme ça, disponibles dans la ville. Et voici les fameux tap-tap, les tap-tap qui sont des pick-up à la base, mais on aménage un échafaud sur le pick-up. Et puis on en fait un transport en commun, un véhicule de transport en commun.
Et ça, on trouve dans toutes les rues de Port-au-Prince, avec des minibus qui sont improvisés et qu'on appelle les tap-tap.
Oui, exactement, les tap-tap, c'est ce que vous voyez passer là, regardez, un peu avec des dessins dessus, etc. Et là, ce sont des marchands de chapeaux.
Attention, on a les chapeaux de paille, on ne va pas les écraser. Hop, qui sont vraiment sur tout le trottoir. On n'arrive plus à marcher sur le trottoir. Et des chaises aussi.
Exactement, osier. Il y a des chaises. Ah ben j'aime bien ces chaises parce que figurez-vous que je compte bien en acheter quelques chaises par là.
Et on va retrouver Lionel Trouillot tout à l'heure dans le club francophone avec Ray Lema ici à Port-au-Prince pour cette émission spéciale Haïti dans la librairie francophone estivale. Rejoindre la place Néhémie Pierre Dahomey, et il y a une particularité sur cette place parce que quand il y a eu le tremblement de terre, beaucoup de personnes se sont réfugiées là, ont campé, se sont retrouvées à habiter là. Le palais présidentiel que vous avez tous vu dans les médias effondré se trouvait là, il a été rasé intégralement pour être reconstruit.
Oui, il a été rasé pour être reconstruit, mais il n'est pas encore reconstruit. Sauf qu'à côté, on est en train de construire des grands bâtiments que je peux vous montrer, qui des bâtiments administratifs, s'entend. Sauf que il me rappelle un peu trop Washington. Je trouve que c'est trop. On dirait des bâtiments qu'on a un petit peu décollés à Washington pour venir les poser ici. Vous allez voir le ministère des Finances, et le ministère, le palais de justice. Il me rappelle un peu trop Washington. En plus, dans cette ambiance-là, c'est pas ce que je m'attends à voir. Ceci dit, je ne suis pas urbaniste. Je dis tout simplement mes impressions de la ville. C'est une ville à laquelle c'est là que je vis, quoi, quasiment là.
Il y a une influence américaine que vous ressentez très forte.
Oui, dans la reconstruction. Alors, dans ce qu'ils appellent reconstruction, qui est encore une fois la reconstruction des bâtiments administratifs. Pour le moment.
Hop, on passe une barrière. On se retrouve dans l'autre partie de la place.
Voilà. On se retrouve devant un grand commissariat. C'est la DDO, c'est
avec
la direction.
Des poulets qui sont devant d'ailleurs en liberté.
Mais c'est vrai. Il y a des poulets et des flics. Je ne sais pas desquels de poulets vous parlez.
Mais non, je parlais des vrais parce qu'il y a beaucoup de poulets qui sont en liberté. Un peu comme en Guadeloupe d'ailleurs.
Oui, mais le matin, ici je me réveille au chant du coq.
Oui.
C'est-à-dire que les coqs chantent le matin. Et puis c'est un réveil beaucoup plus doux que l'alarme.
On dit que Port-au-Prince est une ville qui est sans cesse en bruit, tout le temps en mouvement. Il y a tout le temps du bruit à Port-au-Prince. Et quand les voitures s'arrêtent, quand les gens dorment enfin, eh bien ce sont les coqs qui prennent le relais, par ici.
Mais écoutez,
il y a toujours du bruit, quoi.
Écoutez-le vous-même. Alors le bruit, comme vous l'entendez là à l'ambiance, il y a le monsieur qui vend ses petits clairins, ses petites bouteilles d'alcool. Je vais bien m'en prendre un petit verre d'ailleurs. Mais là, il met sa musique pour vendre ses bouteilles de rhum arrangées. Tranquillement. Sauf que, voilà, je trouve que c'est trop fort, moi.
Ah oui.
C'est trop fort, d'autant plus que à 30 mètres, il y en aura un autre et il mettra une autre musique tout aussi forte. Donc je trouve que c'est trop. Ceci dit, il se trouve que les gens aiment ça. Regardez, ils sont assis, ils sont en train de jouer tranquillement. Et puis, ils sont aussi peut-être là pour la musique. Regardez, ils descendent leur bière en train de jouer. Ils sont aussi peut-être là pour la musique. C'est peut-être moi qui pose problème finalement à Port-au-Prince.
Parce que vous êtes un écrivain, il vous faut du calme, Némi.
Ah oui, il m'en faut. Et il n'y en a pas suffisamment, même si, pas à mes heures, j'aime bien aussi venir écouter un petit peu quand même et boire un coup.
On a un coiffeur de plein air qui s'est abrité avec une bâche orange. On a le miroir qui est posé contre le tronc de l'arbre et puis de la musique et un client qui attend sur une chaise rouge.
Et là, vous tombez devant le musée du Panthéon National qui est juste là, sous terre.
Alors, on change complètement d'ambiance. C'est incroyable parce que dès qu'on tourne le regard, il y a une ambiance différente sur cette place de Port-au-Prince.
Exactement. Et là, c'est le musée du Panthéon National. Ça fait longtemps que j'y ai pas été. J'y étais quand j'étais écolier encore. C'est pour dire. Ouais, le musée est sous terre. On aurait pu vous faire visiter le musée, mais on a. Ouais, même le chauffeur de taxi, il met de la musique sur sa moto. C'est-à-dire, tout le monde met de la musique.
Un truc de fou, c'est vrai. Bon, en tout cas, ce musée est formidablement bien mis en scène parce qu'il est souterrain, effectivement, mais on a une végétation magnifique C'est très beau et ça contraste totalement avec l'autre côté de la place où on a ces camelots et puis ces coiffeurs de plein air.
Exactement. Et puis il y a la rue piétonne là, qui est toute jolie avec le musée. Derrière le musée, il y a un beau restaurant. C'est-à-dire, vous passez, comme vous l'avez dit vous-même, hein, de 40 mètres à 40 mètres, on change complètement d'ambiance.
C'est incroyable, incroyable.
Sauf que, à côté de tout ça, là, Monsieur Kérad, là, le grand vide que vous voyez, siégeait le Palais National.
Voilà, c'était là.
C'était là.
Donc on a encore une palissade verte. Ils ont reconstruit les abords quand même.
Les abords ne se sont pas effondrés, c'est tout.
Ah, c'est ça, d'accord.
Les abords ne se sont pas effondrés.
Les abords sont restés comme ça.
Ils sont restés intacts. Ils ont juste ajouté, pour qu'on ne voit pas ce qui se passe derrière.
Des palissades vertes.
Mais les abords ne s'étaient pas du tout effondrés. Hein.
D'accord.
Sauf que la grande cour était censée être le palais national. Là, vous auriez dû voir. C'était un beau palais. Hein. C'était un très beau palais.
Oui, très beau, oui. Ouais.
Vous auriez dû voir donc le palais national, là, comme ça.
On peut aller voir en traverse, on essaie.
Oui, bien sûr, mais pas cette rue, je la trouve trop large.
Oui, elle est un peu large, ouais.
C'est-à-dire, je ne vais pas traverser là, vu qu'il n'y a pas de feu de signalisation et qu'on va devoir s'imposer.
On va le faire en deux fois.
Exactement.
Allez, on essaye là ?
Non,
attention.
Non plus.
C'est un gros problème de traverser à Port-au-Prince.
Comme il n'y a pas de feu, il faut s'imposer un petit peu.
Attention, on est mis quand même parce qu'on est au milieu de la route quand même. Ça sera le gimmick de ce reportage.
C'est un bâtiment que j'aimais beaucoup, qui abritait jadis le ministère de la Culture. Et on m'a fait savoir que maintenant ça va abriter les militaires, les grands chefs de l'armée. C'est-à-dire, ils ont délogé le ministère de la Culture pour mettre l'armée. Ce qui est pour moi est un assez mauvais symbole.
Ouais. Voilà, on est face à l'ancien palais présidentiel et une grande grille verte qui est devant, pour le coup qui n'est pas recouverte de palissades et qui nous permet d'entreapercevoir le début des travaux.
On voit juste les gardes du palais, on voit juste le grand gazon, vous voyez, et il n'y a pas de palais, c'est le fantôme du palais.
Le fantôme du palais ici à Port-au-Prince, ça me paraît bien pour conclure, Néhémie à Pierre Dahomey. Merci beaucoup pour cette visite dans la ville, au cœur de la ville, et merci de nous avoir accueillis chez vous, puisque d'habitude vous venez en studio, en tout cas vous étiez venu présenter votre premier roman, Rapatrié, aux éditions du Seuil. Cette fois, on vient à vous. Merci beaucoup pour l'accueil, Néhémie.
Merci Emmanuel Kérad, c'était un plaisir.
Voilà, on va poursuivre notre déambulation, la librairie francophone estivale ici à Haïti. Et on va se retrouver tout à l'heure avec Lionel Trouillot et avec Ray Lema pour un club francophone exceptionnel. Manella, Baba Wetu, Baba Wetu, Upunze te kwa usalama.
Ooh, ooh.
C'était Ray Lema avec Baba Mandela sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Kérad.
Et nous voici donc à Pétionville, au Caribé Hotel, où s'est tenu le Pape Jazz Festival. Un musicien très célèbre est avec nous, Ray Lema, figure mondiale du jazz, et l'écrivain haïtien Lionel Trouillot pour le club francophone. Ce sera dans quelques minutes tout à l'heure. Bonjour Kathleen Mars.
Bonjour Emmanuel Kérad.
Nous allons d'abord parler d'une initiative culturelle avec vous. Nous sommes sur un plateau installé en plein air, dans ce grand espace entouré d'arbres, installé par les techniciens de Radio France. Alors Kathleen, on va parler du PEN, le PEN d'Haïti. C'est une association, une organisation très importante. Juste avant, rappelez que vous êtes auteur de 8 romans. Vous avez grandi à Port-au-Prince. Votre dernier livre en date est paru chez Mercure de France, L'Ange du Patriarche. Et vous êtes donc la présidente du PEN d'Haïti. Il existe 146 PEN à travers le monde.
Oui, le PEN Haïti qui a fêté ses 10 ans l'année dernière et qui, voilà, est une communauté de journalistes, d'écrivains, de blogueurs, enfin de travailleurs de la plume. Nous sommes aussi une résidence d'auteurs, résidence d'artistes. Voilà, il faut se démêler pour faire vivre tout ça. Et c'est une entreprise très exaltante et fatigante en même temps.
Eh oui, c'est ça. C'est une organisation internationale qui a vu le jour à Londres en 1921. C'est la première association mondiale d'écrivains. Un PEN en Haïti, c'est très important, Kathleen Mars, dans un contexte politique sans cesse troublé. Il faut défendre les intellectuels, il faut défendre les écrivains, les
oui,
artistes.
Oui, et c'est une grande chance que nous avons. Et je constate depuis plus d'une dizaine d'années, même une vingtaine d'années, qu'il y a une affluence de petits regroupements, de jeunes, de moins jeunes, autour du livre, de la littérature, de l'art en général, pour mettre le livre et la lecture à leur disposition et leur offrir des alternatives au niveau intellectuel.
À côté de vous, il y a Verly Dabel, qui est le trésorier du PEN Haïti. Qu'est-ce qui se passe en Haïti avec ce PEN, Verly?
Bon, pour revenir à ce que Kathleen disait, le PEN Haïti, c'était une initiative de Anglade qui voulait implanter ici une antenne du PEN. L'idée de chercher et les nouveaux talents,
oui,
l'idée de donner des alternatives aux jeunes, l'idée de faire avancer la littérature dans un pays qui manque de tout.
Georges Anglade, effectivement, a fondé cette branche haïtienne en 2008. Malheureusement, 2 ans après, il meurt au cours du tremblement de terre de 2010. Son rêve, justement, Kathleen Mars, c'était de porter la jeune littérature haïtienne, et notamment celle écrite par les femmes.
Oui. Alors c'est ça l'étincelle que j'ai eue avec Georges quand il a fait appel à moi et à quelques autres femmes écrivains, parce que dans sa tête à lui, il a dit là, il y a quelque chose, il y a un tournant dans la littérature. Les femmes sont en train d'apporter quelque chose d'important, de très intéressant. Il n'avait pas tort,
ouais.
Il n'avait pas tort, et voilà, nous continuons, et c'est probablement la première fois qu'il y a un faisceau de femmes dans cette littérature qui vraiment fait métier d'écriture, et nous sommes là pour chercher des jeunes talents au niveau des femmes aussi.
Les femmes intellectuelles haïtiennes peuvent, justement, vous le dites, et il le disait d'ailleurs, on va lui rendre hommage à Georges Anglade, parce qu'elles peuvent être un rempart face aux troubles politiques d'Haïti, mais c'est valable partout dans le monde, ça.
Absolument, absolument. Nous n'avons pas la prétention de résoudre tous les problèmes et d'être... voilà, la nation littéraire par excellence. Mais paradoxalement aussi, à tous nos autres problèmes, il y a vraiment ce rempart qu'est la littérature contre les dérives au quotidien.
On va revenir avec Verly, justement le PEN International, qui a un rôle comme ça dans la défense de la culture, des auteurs, vous le disiez Verly tout à l'heure, aussi dans ces pays qui vivent des drames politiques et donc des drames humains. Cette association, cette organisation a un véritable rôle.
La littérature, je pense que... c'est la chose la plus importante au monde. Et dans un pays où il y a pénurie de tout, pénurie d'eau, pénurie d'électricité, pénurie de nourriture, la littérature est importante. Et Georges Anglade a trouvé que c'était une injustice qu'on n'a pas cette connexion avec le reste du monde à travers le Centre PEN. Et c'est ainsi qu'on a créé ce Centre PEN. Donc c'est primordial dans un pays où il y a pénurie.
Merci Verly, merci Kathleen. Et à suivre ici depuis Port-au-Prince, Ray Lema avec Lionel Trouillot, et nous irons dans nos studios de Montréal à la rencontre d'un célèbre illusionniste pour la dernière partie de notre émission. Avant cela, voici Aloïs Sauvage. Bon été à tous avec la librairie francophone estivale.
T'es à demi-penché, faisant une moue dubitative. l'accès au palier va me faire pâler de vertige. Mais ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus, les vertiges. Donc ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale, je te propose qu'on, à l'horizontale, on pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale, à l'horizontale, je te propose qu'on, à l'horizontale, on pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale. Tremper ses lèvres, ou tempérer la fièvre. Tremper ses lèvres, ou tempérer la fièvre. J'aime ta tête appuyée sur ma clavicule, légèrement tournée vers ma nuque pour que mes yeux te bougent. Que ta bouche coule parfois jusqu'au bout de mon menton et m'embrasse très tendrement. Avec toi j'ai tout mon temps, les bras m'entourent mais t'entourent. Je ne dis rien car ça me va bien d'être envoûté par tes tentacules. J'ai pas de fascicule pour savoir comment m'adonner à cette sainte donation de nos corps entremêlés. Faudrait-il faire attention à l'horizontale? Je te propose qu'on, à l'horizontale, on pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale, à l'horizontale. Je te propose qu'on, à l'horizontale, on pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. Tu voulais la mer, donc je te l'ai donnée. Les draps trempés, c'est pas que pour la scène, moi je suis polisson. Tu me regardes en souriant, le baiser a fait le beau car je vois bien comme il t'a eu. Je suis rentré sans frapper, c'est une mauvaise habitude. L'approche a cédé à l'accroche qui s'est agrippée sans litige. À plus tard, on se rappelle. Si je te crois, je te connaîtrai. J'ai même espoir qu'on se reconnecte.
C'était Aloïse Sauvage avec À l'horizontale.
Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio-Canada,
France Inter,
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Émission spéciale depuis Port-au-Prince pour cette librairie francophone estivale au cœur de l'été. Nous sommes à Pétionville, sur les hauteurs de Port-au-Prince, au Caribé Hôtel, avec deux grandes personnalités de la culture francophone. Bonjour Réléma.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes l'artiste de jazz et de musique du monde que les amateurs respectent partout sur le plan international. Bonjour Lionel Trouillot.
Bonjour.
Vous êtes un habitué, vous, de la librairie francophone, auteur de 11 romans, 3 recueils de poésie. Le dernier en date, Ne m'appelle pas Capitaine, est sorti chez Actes Sud et nous en avions parlé depuis Erevan en Arménie, vous vous souvenez, lors du sommet de la francophonie.
Très bien.
On s'était baladé dans la ville comme ça tous les deux. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cet entretien sur notre site internet. Alors on vous a réunis tous les deux dans ce club francophone car vous portez chacun un engagement culturel très fort, fondé sur l'humanisme et l'ouverture sur le monde, tout en consolidant comme ça, en défendant les cultures de vos origines. Et Réléma, c'est ce que vous avez toujours montré, c'est la mixité qui fait l'œuvre.
Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu inévitable, hein, parce que tous les progrès technologiques ont fait que nous sommes tous interconnectés. Donc autant assumer et s'organiser pour qu'on ne devienne pas tous pareils. Hein, donc il faut à ce moment-là, ouais, assumer sa culture et puis avoir de la distance un peu, quoi.
C'est vrai qu'il faut de la distance, il faut assumer ses cultures. En tout cas, vous, vous découvrez, Réléma, les possibilités immenses de la musique en 1979, en allant aux États-Unis, et puis vous partez en Belgique, et puis en France, et puis vous parcourez le monde comme ça. Ce sont les voyages qui ont métissé cette musique-là.
Avant ça aussi, hein, je parle souvent de ma période où j'ai été directeur de musique
du ballet
national.
Oui.
Moi, j'étais musicien moderne.
Et oui.
Et puis un jour, on m'a demandé de faire un ballet national d'un pays qui fait 4,5 fois la France, avec la forêt équatoriale. Donc, il n'y a pas de route dedans. Et ensuite, on a 250 ethnies dans ce pays qui parlent chacun un dialecte. J'ai appris tellement de choses sur moi-même que quand je suis arrivé aux États-Unis et que j'ai, comme je fais du jazz, j'ai commencé à croiser les jazzmen, je dois vous avouer que au ballet national, je suis devenu maître tambour traditionnel congolais. Et à force d'écouter les tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan des jazzmen, j'ai commencé de leur dire, mais les gars, vous savez que le rythme, c'est un peu plus que tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Et je peux vous aider un tout petit peu.
Oui.
Mais les Américains noirs ne pouvaient pas, à cette période-là en tout cas, accepter l'apport d'un musicien africain qui arrivait, qui n'était connu de personne. Donc je me suis retiré sur la pointe des pieds.
Vous êtes retiré, mais tout en conservant cette générosité. Quand on voit Relema, vous portez comme ça l'amour. Et vous le dites ça, vous le dites sans embâche. Vous dites que c'est l'amour pour l'autre qui nous donne aussi la possibilité de révéler une musique différente. On se sert finalement de l'amour que l'on a pour les autres pour transcender son art.
Bon, ça, c'est pas seulement une histoire de musique. Avant de devenir musicien, moi, j'étais allé, en fait, au séminaire parce que je voulais devenir prêtre. Parce que je suis un grand croyant, bien qu'aujourd'hui, je n'ai pas de religion. Je suis un croyant sans religion. Donc, je parle toujours d'amour parce que nous sommes tous inscrits dans la loi du deux. Tout l'univers, quand on commence à l'étudier, est inscrit dans la loi du deux. Il n'y a pas de lumière sans obscurité, il n'y a pas le bien s'il n'y avait pas le mal. Tout est toujours une dualité.
Ouais.
C'est pour ça que je parle d'amour.
Ouais.
Il faut apprendre l'amour. C'est vraiment une loi universelle sans laquelle on fait une analyse qui est complètement distordue.
Ben, on associe trop l'amour à la sexualité déjà souvent.
Malheureusement.
Alors que c'est pas ça.
Malheureusement.
On peut aimer l'autre qui est en face de nous, tout simplement. Vraiment. Ou quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime profondément, c'est possible.
C'est très possible.
Et ça transcende tout. Lionel Trouillot vous regarde juste à côté avec un œil amusé, mais je sais qu'il est dans cet esprit-là aussi. Parce que Lionel, dans vos romans, l'amour est aussi une valeur forte qui permet à vos personnages de dépasser leurs conditions.
Oui, sans passer par Dieu.
Je pense
que en passant par Hegel, Marx... Et d'autres grands humanistes, on peut arriver à cela sur le point d'arrivée, on est tout à fait d'accord. Il s'agit de voir comment on peut organiser sa présence au monde pour la mettre dans le sens du don, dans le sens du partage. En ajoutant ce que Ray a dit, il faut d'abord qu'on se respecte soi-même dans une tranquillité, dans cette connaissance, pour qu'on puisse aller vers l'autre. Parce que la conversation dans le monde, pour qu'elle soit vraiment une conversation amoureuse, il faut qu'elle soit basée sur un principe d'égalité.
Exact.
Eh oui, Relema.
Je voulais juste rebondir là-dessus. C'est, tout à l'heure, il a parlé de Dieu. Hein. Vous savez que c'est un mot qui est tellement interprété aujourd'hui que moi, j'évite ce mot. Je vis ma foi à travers mon métier. C'est-à-dire, je suis compositeur. Et quand je te regarde, je ne peux pas décider que parce que je ne t'ai pas composé, que tu es un hasard. Je trouve ça tellement enfantin. Quand je te regarde, je sens une conscience
ouais.
qui a fait que tu es là en train de me regarder
pour
avec
l'instant, oui, c'est ça.
Un si beau regard.
Merci.
Oui, c'est ouais. La conscience d'un compositeur. Donc, il y a un grand compositeur devant qui je me sens à genoux parce que quand je regarde autour de moi, je me dis quand même... Sa composition est vachement corsée.
Et très éclectique en plus.
Vraiment, hein, mais alors elle est immense. Quoi.
C'est ce qui vous a permis, ça, Relema, ce que vous dites là, justement, de jouer avec des artistes de tous les univers différents. Je pense à Jacques Higelin, à qui on pense fortement, qui était un ami de cette émission, à Alain Bachung, à Manu Dibango, à Charlie Couture aussi, sur un album entier, le Buana Zulu Gang, vous vous souvenez de cet album formidable.
Je me souviens.
C'est cet amour-là qui vous a porté vers ces artistes-là aussi?
C'est cet amour-là, mais c'est l'entraînement du ballet national parce que c'est en apprenant la philosophie rythmique de chez moi que j'ai attrapé une souplesse qui fait que quand j'écoute un autre musicien, je vois tout de suite où, comment et où il bouge. C'est un art qu'on apprend en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup de percussions et tu vois l'autre, quoi, tu
ouais,
le
ouais.
vois. Et tu sens comment il va bouger, son prochain mouvement qu'il va faire. Et du coup, ça ne demande aucun problème de danser avec lui.
Bon, nous sommes en Haïti, ici, à Lionel Trouillot, Relema, avec cet espace magnifique qui commence tout juste à s'éclairer. On a ces arbres devant nous qui s'éclairent grâce à des projecteurs. Et puis, on va parler un peu de politique, Lionel, si vous le voulez bien. Je ne peux pas m'empêcher parce qu'un Haïtien, un Africain, un Congolais, on va parler du rapport d'Haïti avec l'Afrique. Vous êtes beaucoup exprimé sur ce sujet, Lionel Trouillot, parce que vous dites que la perception des Haïtiens envers l'Afrique n'est pas vraiment celle qu'on aimerait qu'elle soit. les Haïtiens ne représentent pas la diaspora africaine, dites-vous.
Je dirais deux choses extrêmement négatives.
Ah, commençons par le négatif.
La première, ça a été pendant longtemps un mépris total de l'Afrique. Tout le 19e siècle haïtien est presque anti-africain. Au sens où le discours, c'était, puisque Haïti était le seul État indépendant, c'était « nous avons fait comme les Blancs, nous avons donné la preuve au monde que les Noirs sont les égaux des Blancs, et il faut maintenant que nous ayons une sorte de fonction presque civilisatrice vis-à-vis de nos frères africains ». Ça a été le discours abominable du 19e siècle. Mmh. Puis, au 20e siècle, cela a changé. Il y a eu une évolution positive en disant « attention ». La composante culturelle haïtienne, africaine, nous devons la mettre en valeur. Cela a donné, c'était très positif, mais cela s'est converti en quelque chose qui a fait une sorte d'Afrique mythique et qui était loin de l'analyse et de la connaissance des véritables situations des différentes sociétés africaines. Depuis, ça évolue un peu. Mais le grand malheur, c'est qu'il y a une grande ignorance de la réalité de l'Afrique, tant sur le plan politique que sur le plan culturel.
Bon, vous allez réfléchir au positif, parce que vous avez commencé par le négatif. Rélema, vous voulez réagir à ce que dit Lionel Trouillot ?
Je suis fasciné d'entendre ça, parce que c'est la première fois que j'arrive vraiment en Haïti. Et Haïti, effectivement, ça représente beaucoup pour tous les intellectuels, parce qu'ils ont produit une littérature qui est quand même connue dans le monde.
Incroyable, oui.
Hein ? Donc je suis très curieux et très en attente de tout ce que je peux glaner sur Haïti. Et moi, j'aurais tendance à écouter ce qu'il est en train de dire. Ça m'interpelle fort, quoi.
Lionel, le positif, alors ?
Le positif, c'est qu'il y a aujourd'hui, de plus en plus, un besoin de connaissance de ces réalités africaines dans tous les domaines et un besoin de communication et de partage.
Bon, on va terminer ce club francophone. Lionel Trouillot, on vous a demandé de réfléchir à une musique qui symbolise pour vous la période estivale. Et puis, tiens, une découverte gastronomique. Rélema peut participer, bien sûr. Écoutez, on commence par une musique. Tiens, qu'est-ce que vous écoutez l'été ?
Je vais vous dire un souvenir d'adolescence écrit par Kiki Wainwright, qui est un grand musicien et poète haïtien. Ça s'appelle « Haïti, terre de soleil ».
Dans la mer des Antilles, un coin de terre baigné par les flots bleus. Oh mon pays.
C'est une chanson un peu à caractère un peu touristique, mais d'une très belle mélodie. Et à l'époque où nous, petits Port-au-Princiens, on rêvait d'un pays très beau, mais on voyait pas les pauvres à côté.
On va demander à Rélema, tiens, une découverte culinaire. Qu'est-ce que vous avez envie de nous conseiller sur le plan gastronomique ?
Ici ?
Où vous voulez ?
Ah non, parce que moi, ici, j'ai découvert les lambis.
Ah oui.
C'est les lambis ?
Eh oui, c'est un coquillage.
Ah, on mange ça fait mal. Hein.
Dans toute la Caraïbe.
Ah, vraiment, ça fait
fricassé
mal.
Fricassé
hein.
De lambis.
Moi, je vous conseille le lambis.
Oui.
C'est pas mal. C'est vraiment pas mal.
On trouve le lambis en Martinique et en Guadeloupe notamment, qui ont cette spécialité culinaire-là. Lionel Trouillot, un plat ?
Ben moi, je suis avec le lambis et puis aussi avec ce qu'on appelle ici le riz djondjon, qui est une espèce de champignon qui apparemment n'existe qu'en Haïti.
Exact.
Et qui est souvent consommé ici. Donc lambis, combinaison lambis, riz djondjon, je marche.
Ça aussi, j'avais oublié.
Bon, merci à tous les deux. Merci beaucoup, Rélema.
Et je vous en prie.
C'était un grand honneur de vous recevoir dans cette émission internationale.
Merci. Moi, c'est un grand honneur aussi de croiser ce grand monsieur.
Grand monsieur qui est Lionel Trouillot, qui publie toute son œuvre chez Actes Sud. Merci, Lionel, d'être fidèle à la librairie francophone.
Merci de m'avoir invité.
À bientôt.
Merci. Ciao, ciao.
Avant de partir au Canada, retrouver l'illusionniste Luc Langevin, voici le duo québécois Tristan Malavoie et Émilie Bibeau pour un titre interprété en acoustique dans la librairie francophone au Salon du Livre de Montréal.
A pour Aïda, B pour Biolay, C pour tous ses colliers, D pour Dali, E pour encore, F pour je t'aime très fort.
G pour les glaces, H pour les houles, I pour Istanbul. J je ne sais quoi, K, karaoké, L pour la liberté. Il faut tout un abécédaire pour te plaire. Retourner l'alphabet dans tous les sens pour une danse avec toi. Il faut tout un abécédaire pour te plaire. Retourner l'alphabet dans tous les sens pour une chance et encore.
T'auras toujours le dernier,
toujours le dernier mot.
M pour ma main, N sur ta nuque, O pour les opéras de Gluck.
P pour Paris, Q sur les quais, R pour recommencer.
La, 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 la. S pour secret et transsibérien, U usons les chemins.
V grand voilier, W wagon, X encore un Xérès allongé sur le pont.
Il faut tout un abécédaire pour te plaire. Retourner l'alphabet dans tous les sens pour une danse avec toi. Pa 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 ra pa ra, il faut tout un abécédaire pour te plaire. Retourner l'alphabet dans tous les sens pour une chance et encore.
T'auras toujours le dernier,
toujours le dernier mot. Yin et Yang sur le pont d'un yacht, ton cœur yolo, mon cœur yolo. Zèbre zen, zeppelin pour Zanzibar, oh, il reprendra zéro. Il faut tout un abécédaire pour te plaire. Retourner l'alphabet dans tous les sens pour une danse avec toi. Pa 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 ra ta ra, il faut tout un abécédaire pour te plaire. Retourner l'alphabet dans tous les sens pour une chance et encore. T'auras toujours le dernier, toujours le dernier mot.
C'était Tristan Malavoie et Émilie Bibot avec ABCDR sur votre radio francophone.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Quérade.
Et on se retrouve dans nos studios de Montréal. Bonjour Luc Langevin.
Bonjour Emmanuel.
Votre livre « La science de l'illusion » décrypte la magie par le prisme de la science. C'est un récit qui nous fait parfois rêver, qui nous laisse perplexes aussi. On peut trouver des vidéos sur Internet avec vos illusions face à des personnalités. Il y a des moments à la fois émouvants et surprenants. Vous êtes un grand artiste, Luc, vraiment. Tout est dans l'émotion. Pour créer de l'illusion, il faut un contexte, il faut raconter une histoire.
Tout à fait, oui, je crois que c'est la plus belle magie qu'il y a dans l'illusion, finalement, de faire rêver par l'histoire, par le contexte dans lequel les miracles sont présentés. Ça fait toute la différence, selon moi.
Les miracles, vous parlez de miracles encore?
Ouais, ben je dirais que autant que la magie que les miracles, ils se produisent dans la tête des gens plutôt que dans la réalité. C'est ce que je raconte dans mon livre, d'ailleurs.
Ouais. Alors, vous arrivez à nous fasciner avec des tours simples utilisant des élastiques ou des bagues. Ce n'est pas le plus spectaculaire, mais c'est intriguant quand même. D'autant plus, je dirais que ça s'explique, car vous le dites dans le livre, nous avons tous une faille dans le fonctionnement de nos yeux et de notre cerveau.
Oui, tout à fait. Puis, en fait, on a plusieurs failles dans notre cerveau que les illusionnistes peuvent exploiter pour créer des illusions. C'est ce que je décris dans le livre. Donc, je parle de plusieurs failles. On dit failles, mais en fait, ce sont des raccourcis que le cerveau prend pour nous rendre plus efficaces. Mais dans ces raccourcis, il y a matière à exploiter certaines choses pour les illusionnistes et générer une émotion d'émerveillement. Donc.
Par exemple, qu'est-ce qui cloche dans nos yeux?
Plusieurs choses. Par exemple, ben, évidemment, nos yeux ont une résolution si on veut limiter, c'est-à-dire il y a une limite à la dimension des objets qu'on est capable de percevoir. Il y a une limite au mouvement, la rapidité des mouvements qu'on est capable de détecter. Notre cerveau, en fait, décode environ 30 images par seconde. Donc, si un mouvement est fait en moins d'un trentième de seconde, ben, il est complètement invisible à l'œil. On a aussi des phénomènes comme la pertinence rétinienne qui est, si je vous éblouis avec une lumière très forte, une fois que j'aurai éteint la lumière, ben pendant quelques secondes, vous serez encore aveugle, si on veut, puisque la lumière aura saturé certaines neurones dans votre cerveau et tout. Donc, tout ça, ce sont des failles qui sont exploitables par les illusionnistes.
Donc, la magie, c'est une mécanique de précision. Vous pouvez accomplir comme ça des gestes si rapides qu'on ne peut pas les voir?
Tout à fait. Ça demande de l'entraînement, mais c'est ce que plusieurs magiciens font. C'est possible d'y arriver et c'est une des façons par lesquelles on peut créer des illusions.
Ouais. Et ça va très loin, Luc Langevin, comme avec le chorégraphe et danseur québécois Jean-Marc Généreux, devant qui vous allez disparaître pour laisser la place à un enfant. Simplement, derrière un rideau que vous montez devant vous, il y a une vidéo sur Internet. Écoutez un extrait.
OK. T'es prêt, Jean-Marc?
Absolument.
Écoute, Jean-Marc, j'ai avec moi ici le premier jeu de cartes que j'ai possédé dans ma vie. J'avais 14 ans la première fois que je l'ai utilisé en spectacle. Jean-Marc, mais réellement, si on pouvait reculer dans le temps. Personnellement, moi, c'est à l'époque où j'avais 14 ans que j'aimerais revenir, au moment où j'ai goûté aux applaudissements pour la première fois avec ce jeu de cartes-là. Je me place en position, juste ici, mais tu peux garder la tienne.
Ouais.
Je vais prendre juste ça ici. Voilà. C'est bien mélangé?
Oui.
Jean-Marc, c'est à l'époque où j'avais 14 ans que j'ai appris à peu près tout ce que je sais faire avec un jeu de cartes. C'est, je dirais, c'est une époque que je revivrai n'importe quand.
Et t'es où, là?
Alors, il y a un enfant qui apparaît.
T'étais pas mal plus beau!
À ce moment-là.
Waouh!
J'aimerais reprendre mon jeu, s'il vous plaît.
Et cet enfant vous ressemble, Luc Langevin. C'est incroyable.
En fait, je donne l'illusion de rajeunir à l'âge de 14 ans. Je pense qu'on a bien compris avec l'extrait sonore.
Ouais.
Donc, c'est un bel exemple. Un bel exemple d'une illusion que j'ai créée qui allie à la fois science, émotion et interaction avec un artiste. C'est une des illusions qui m'a fait connaître le plus grand succès, je pense. On m'en parle beaucoup. Elle vient toucher une corde sensible. Puis j'ai pu la créer grâce à certains principes scientifiques aussi. Donc voilà.
Alors Jean-Marc, merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir contribué à ce qu'un jour je devienne un grand magicien.
Voilà, il en pleure d'émotion, Jean-Marc Généreux. Et je vous avoue, Luc Langevin, que quand j'ai regardé cette vidéo, moi aussi, j'ai eu un peu la larme à l'œil, à ma grande surprise, parce que c'est le genre de truc qui me touche pas d'habitude. Mais là, vraiment, vous êtes capable de disparaître devant lui, c'est incroyable. Vous êtes capable aussi, alors on va pas en parler là, mais dans des spectacles, de vous téléporter d'un endroit à un autre. Comment est-ce possible? Comment peut-on croire à ça avec un esprit cartésien?
C'est difficile justement de faire croire de telles choses à une personne adulte, des gens, je dirais, qui ont un cerveau mature, parce que les enfants peuvent croire à peu près n'importe quoi, mais mon but, moi, c'était vraiment d'offrir une magie à une clientèle adulte, entre guillemets, parce que la sensation d'émerveillement, on la vit au quotidien lorsqu'on est tout jeune, mais plus on vieillit, plus elle est difficile à obtenir.
Vous ne répondez pas, Luc. Vous ne répondez parce que vous ne voulez pas donner le truc, je sais.
Non, mais j'y viens. En fait, l'usage de la science, pour moi, c'est quelque chose qui est crédible. C'est-à-dire que lorsqu'on voit quelque chose qui est impossible, ça nous prend une piste d'explication. Si c'est trop impossible, on va dire qu'il y a un trucage vidéo ou qu'il y a quelque chose. Mais lorsque c'est bien fait, on arrive à faire rêver un adulte. Après, je ne vais pas vous dévoiler, évidemment, le secret. Parce que le secret est beaucoup moins intéressant que l'émotion que vous avez vécue en voyant le numéro.
Alors, juste un petit indice, vous êtes passionné par la théorie
théorie de la relativité, selon laquelle l'espace et le temps sont liés et donc, on l'apprend à l'école quand on fait des études scientifiques, l'un et l'autre relatifs. On peut aller loin avec cette pensée scientifique, évidemment. Il faut savoir, par exemple, que le temps passe beaucoup plus vite, vous en êtes tous aperçus, lorsque vous êtes occupé ou en mouvement que lorsque vous êtes oisif. Et c'est ça la question de la relativité. Et Luc Langevin l'utilise. On va écouter la BO de votre livre, Luc. Un son, une variation de notes. Parfois, la musique est aussi magique. Elle nous emporte comme ça dans une émotion inattendue. Vous avez choisi le groupe Coldplay.
Oui.
Et le titre The Scientist, étonnant, le savant. On écoute un extrait et on en parle. La magie, c'est du théâtre. Sur scène, je joue un rôle, j'incarne un personnage dont les moindres faits et gestes sont calculés pour que vous ayez envie de le suivre de l'autre côté du miroir et basculiez dans le pays des merveilles. D'ailleurs, bien que je ne me considère pas comme un acteur à proprement parler, je me sens très proche d'eux. Moi aussi, je fais croire des choses au public. Je raconte des histoires, j'invente un univers. Comédiens et magiciens, nous avons le même but, vous divertir et surtout vous faire rêver. Le savant, il est là pour faire rêver Luc Langevin.
Je pense que oui. C'est pas nécessairement ce que font les savants habituellement, mais je crois que ça peut s'entendre. Oui, un savant et un créateur d'émotions, si on veut.
Vous dites plusieurs fois dans ce livre qu'il y a des choses impossibles à faire. C'est scientifique. Les mentalistes sont des charlatans et ceux qui prétendent pouvoir faire bouger les choses à distance par la force de l'esprit sont des menteurs. Ce sont des illusionnistes. Ce sont vraiment des charlatans, Luc?
Ben oui, ben tout dépend comment ils présentent ce qu'ils font. Si un mentaliste prétend faire de l'illusion, donner l'illusion de lire dans les pensées ou de déplacer des objets à distance, ça, il n'y a pas de problème. À partir du moment où il y a une prétention que tout ça est réel, qu'on a un don, un pouvoir surnaturel, là, j'ai un peu plus de difficultés, puis j'écris au charlatan. Ouais.
Alors vous, pour faire bouger les objets, vous utilisez la force magnétique, hein, vous ne vous en cachez pas. On peut faire bouger des objets à distance, on peut les coller ensemble, on peut les faire tenir, il y a un transfert d'électrons, d'ions, on sait faire ça, voilà, on peut le faire avec une paille par exemple, et vous le faites avec des objets bien plus gros qu'une paille. Donc c'est ça, c'est la force magnétique.
Oui, ça ne m'a pas dérangé de révéler cette partie-là dans le livre, parce que je trouve que l'explication est magique en tant que telle. La force magnétique, c'est une force qui est invisible, qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui agit à distance. Donc si on montrait ça à des gens il y a deux ou trois siècles auparavant, ça, ils auraient appelé ça de la magie. Donc je trouve que l'explication reste magique même quand on la connaît.
On va terminer avec l'intuition, Luc Langevin. Beaucoup d'entre nous fonctionnent à l'intuition ou ont même parfois des prémonitions. Comment elles fonctionnent, ces intuitions, scientifiquement parlant?
En fait, ce sont des raisonnements inconscients. L'intuition, on a parfois l'impression que c'est quelque chose de divin qui nous vient à l'esprit un peu par un canal obscur. Mais en fait, c'est prouvé que ce sont des raisonnements très logiques, mais qui se font inconsciemment, un peu à notre insu. Le résultat de cette réflexion-là nous vient comme une intuition, comme si ça tombait du ciel, alors qu'en fait, c'est une partie inconsciente de notre cerveau qui l'a fournie par l'expérience, par le fait qu'on a répété certaines erreurs. Donc, lorsqu'on vient pour la répéter une nouvelle fois, il y a quelque chose qui nous dit de ne pas faire les choses comme on le fait habituellement. Donc, ce sont des procédés inconscients du cerveau, finalement.
Et vous notez aussi que les imperfections de la vie permettent l'illusion. Si tout était parfait, rien ne serait possible. Et là encore, votre réflexion sort de son cadre artistique et scientifique. Vous encouragez le lecteur à vivre, dites-vous, dans les courbes, à prendre la tangente. C'est joli, ça.
Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs le message de mon nouveau spectacle dont je viens de commencer la tournée.
Ah bon?
Tout à fait. Je me suis rendu compte après plusieurs réflexions, que d'emprunter justement des chemins qui sont plus longs que la ligne droite entre deux points, souvent nous fait vivre vivre un voyage qui est beaucoup plus intéressant que le chemin le plus court et que c'est une nourriture pour l'âme qui est beaucoup plus riche, qu'on apprend beaucoup de nos imperfections, de nos erreurs, alors que quand on a tout facilement, ben il y a pas de matière, il y a rien à en tirer. Ouais. Donc c'est, si je le résume rapidement, c'est ce que je dirais par rapport à ça. Ouais.
Voilà, il faut des épreuves et des imperfections. On va retenir cette leçon pour le week-end. Merci beaucoup, Luc Langevin.
C'est un plaisir.
Merci, grand plaisir partagé. La science de l'illusion est parue aux éditions Michel Lafon, un livre surprenant, fascinant à lire en allant voir les tours sur Internet. Pour une fois, allez-y, pour vivre des moments qui vont vous plonger dans une grande perplexité. À bientôt, Luc.
À bientôt.
Et c'est la fin de cette édition. Depuis Port-au-Prince, en Haïti, je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction, Jean-Philippe Véret de France Inter, ici en Haïti, avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. La semaine prochaine, nous resterons au soleil et nous serons ailleurs dans le sud de la France avec Jean-Christophe Ruffin et Yann Kefelec sur la plage, Julien Sandrel pour une visite historique de la ville, Amélie Nothomb et Stéphanie Hocher en public pour parler de leur passion des chats et Boris Cyrulnik pour une discussion autour de la création et de la résilience. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale depuis Port-au-Prince. Bon week-end et bel été à tous.